Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. Le navire humanitaire Eleonore de l'ONG allemande Lifeline a été saisi ce lundi par les autorités italiennes avec une centaine de migrants à bord après avoir violé l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales de l'Italie pour accoster au sud de la Sicile. Le bâtiment était en mer depuis 8 jours dans l'attente d'un port sûr pour accoster après avoir secouru une centaine de migrants. Il a été le premier des 3 navires humanitaires actuellement en Méditerranée à avoir reçu au cours des derniers jours l'interdiction d'accoster de la part des autorités italiennes. Dans un tweet, le capitaine de l'Eleonore a expliqué avoir été contraint de se diriger vers les côtes italiennes parce que la situation à bord représentait un danger de mort en raison d'une mauvaise météo et d'une mer agitée durant la nuit. Un autre navire humanitaire, le Mare Ionio, avec 31 migrants à bord, se trouvait ce lundi à la mi-journée dans les eaux internationales à 24 kilomètres de l'île sicilienne de Lampedusa, dans l'attente lui aussi de pouvoir accoster. République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit s'entretenir ce lundi à Kinshasa avec le président congolais Félix Tshisekedi sur la lutte contre l'insécurité et l'avenir des Nations Unies en RDC. Hier, il s'est rendu dans la région de Beni, province du Nord Kivu, où les populations attendent désespérément des réponses face à l'épidémie d'Ebola et aux violences des groupes armés. Le point avec Nathalie Barge.
Je compte sur le Conseil de sécurité pour que l'on puisse renouveler le mandat avec les ajustements nécessaires, a déclaré Antonio Guterres après avoir visité un centre de traitement d'Ebola près de Beni. Pour le patron de l'ONU, la riposte anti-Ebola passe par la lutte contre les groupes armés actifs dans la région. Notre solidarité doit s'exprimer par une coopération accrue entre la MONUSCO et les forces armées de la RDC, capables de contenir et si possible de battre la menace d'actes terroristes des ADF, a dit M. Guterres. Nous aimerions que la MONUSCO joue pleinement son rôle, a lancé samedi un porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, en annonçant une prochaine offensive contre la milice islamiste. Malgré une accalmie, Ebola reste une menace sérieuse de santé publique pour le pays et la région, a souligné M. Guterres. L'épidémie qui a touché l'Ouganda a été décrétée en juillet par l'OMS, urgence sanitaire de portée internationale. L'actuel mandat de la MONUSCO est valable jusqu'au 31 décembre. L'ONU a déjà fermé des bases et réduit ses effectifs civils en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine voisine, au moins 2 personnes ont été tuées dans des combats dimanche dans le nord-est du pays entre 2 groupes armés signataires de l'accord de paix conclu début février avec le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué la mission des Nations Unies sur place. Jean-Roger Bion.
Ces affrontements à Birao ont opposé des miliciens du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, à ceux du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC. Plus de 1000 déplacés se sont réfugiés aux alentours de la base de la MINUSCA. Les casques bleus ont effectué des patrouilles dans la ville. Le pays connaît une relative accalmie depuis la signature d'un accord de paix le 6 février entre 14 mouvements rebelles et le gouvernement centrafricain. Les populations sont toutefois toujours victimes de violences commises par les groupes armés qui contrôlent 70% du territoire. Le MLCJ et le FPRC, tous deux issus de l'ex-rébellion de la Séléka, s'étaient déjà affrontés le 14 juillet dans le village d'Amdafok, situé à la frontière du Soudan, à 60 km de Birao. Un affrontement provoqué par l'arraisonnement d'une cargaison d'armes appartenant au MLCJ par des éléments du FPRC qui avait causé la mort de 8 miliciens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, fin du suspense au Burkina Faso concernant le verdict des accusés au procès des putschistes de septembre 2015 à Ouagadougou. Le général Gilbert Diendéré, le présumé cerveau du putsch, s'est vu infliger 20 ans de prison par la justice militaire burkinabé. Son principal co-accusé, le général Djibril Bassolé, écope de 10 ans. Le tribunal est en train de faire connaître en ce moment même le verdict des 80 autres prévenus jugés pour leur participation au coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Au Mali, 15 personnes ont été tuées à Bamako, la capitale, dans l'effondrement d'un immeuble en construction dimanche. 26 personnes ont été extraites vivantes des décombres, selon un nouveau bilan du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. Le troisième et dernier étage en construction de cet immeuble, situé dans le quartier de Bankoni, Salemé-Bougou, s'est écroulé dans la nuit de samedi à dimanche sur le reste du bâtiment déjà habité. L'ensemble s'est alors effondré comme un château de cartes, d'après les médias locaux. Au Niger, la montée des eaux du fleuve du même nom en cette période pluvieuse risque de causer des inondations à Niamey, la capitale. Et les autorités ont demandé aux populations riveraines de quitter les lieux. Le point avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
L'alerte a été donnée en milieu de semaine par le gouverneur de la région de Niamey. Le niveau des eaux du fleuve augmente dangereusement depuis quelques jours. Issaka Hassan Karanta.
Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui relève de deux situations. D'abord, l'abondance des pluies au Burkina Faso, qui a fait que la Sirba et le Gorouan ont drainé suffisamment d'eau qui sont venues se jeter justement dans le fleuve. Ça, c'est ce que nous appelons la crue des eaux rouges. Et de l'autre côté, nous avons été informés depuis deux semaines que le barrage de Selengué au Mali a cédé, ce qui risque d'aggraver la cote, qui est de 618 cm. Or, en 2012, c'est avec cette cote de 618 cm qu'il y a eu l'inondation.
Face à la montée progressive des eaux, le ministre de l'Action humanitaire s'est rendu auprès des populations riveraines du fleuve samedi matin, Lawan Magaji.
Dans plus de 50 ans, depuis avant l'indépendance, on n'a pas enregistré une cote de 630. Nos équipes sont celles qui sont prêtes, ils ont mobilisé les moyens de loger à peu près 1500 personnes. C'est vraiment un appel que je lance à la population de Niamey d'être vigilante et surtout d'éviter vraiment de rester dans l'eau dans la nuit.
Les autorités insistent pour que les populations quittent volontairement ces endroits inondables, sinon elles envisagent de les évacuer par force si la situation ne s'améliore pas. Issaka Hassan Karanta, gouverneur de la région de Niamey.
Chacun soit sur ses gardes. Si la situation évolue au-delà des 618 cm, eh bien, sans attendre l'inondation, nous allons commencer par évacuer les gens.
Déjà, plusieurs régions du pays ont connu des inondations. À Agadez, par exemple, deux personnes sont décédées et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Sadou Saloké, gouverneur de la région d'Agadez.
Nous avons 2558 ménages sinistrés, ce qui totalise pour nous 17 384 personnes en charge. Nous avons enregistré 705 sans-abri. Nous avons également perdu plusieurs centaines d'exploitations agricoles, totalement ou partiellement détruites. Nous avons enregistré plusieurs centaines de têtes de bétail perdues. Nous avons eu plusieurs coupures de nos voies de communication. C'est le cas de la RTA qui a été coupée au moins à trois endroits.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, l'ouragan Dorian frappe en ce moment l'archipel des Bahamas avant de se diriger vers le territoire américain, selon la météo. Ses vents frôlent les 300 km à l'heure, un niveau sans équivalent dans l'histoire des Bahamas. Michel Joseph.
L'ouragan de catégorie 5 a été qualifié de catastrophique par le Centre national des ouragans américains. Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte est de la Floride, dans le sud-est des États-Unis, lundi soir et mardi. Mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper cet État. Initialement, il devait frapper directement la Floride, a rappelé dimanche matin le président Donald Trump à son arrivée à la Maison-Blanche de retour de Camp David. Il semble désormais qu'il va remonter vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Géorgie et l'Alabama vont aussi être touchés, mais sa course pourrait encore changer, a mis en garde M. Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.